Bonsoir, bienvenue dans cette première édition de l'année 2010 de votre émission Tribune de la Presse, qui vous propose ce soir trois thèmes. D'abord, arrivé cet avant-midi à Kinshasa du ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner, et toujours dans la diplomatie, nouvel bruit entre Kinshasa et la Commission européenne. Karel De Gauche, le commissaire européen, déclaré indésirable en République démocratique du Congo. Ensuite, publication lundi dernier d'une série d'ordonnances portant révocation, mise à la retraite et promotion des agents de l'administration publique et des régies financières. Enfin, polémique autour de la création d'un nouveau courant au sein de l'ANP. Pendant ces moments, du côté de l'opposition, le MLC annonce la mise sur pied d'une plateforme en prévision des élections de 2011. Trois confrères sont avec moi dans cette émission pour en parler. Il s'agit de Fidel Moussangou, qui est coordonnateur du quotidien Le Phare, c'est un journal qui parle de Kinshasa. Il devait être avec nous, il n'est pas encore là. Nous espérons qu'il va nous rejoindre. Et nous sommes avec Jean-Pierre Moukengue, il est éditeur, directeur général du journal La Cloche, c'est un tri hebdomadaire paraissant à Kinshasa. Et Théodore Kadingou, qui est journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTNP Kananga, au Kasaï Occidental. Arrivée de Bernard Kouchner et l'affaire Karel De Gauche, révocation, mise à la retraite et promotion des agents des régies financières, ainsi que polémique dans l'ANP au sujet du courant rénovateur, et l'MLC de son côté se prépare pour les prochaines élections. Tels sont les thèmes sélectionnés pour les débats de ce soir. Comment les différents journaux quinois ont traité ces sujets? Écoutons cette revue de presse que nous présente Samuel Kachak.
Bonsoir. Parmi les sujets retenus pour cette revue de la presse, le Phare annonce une crise entre la RDC et l'Union européenne. Ceci suite au refus de Kinshasa d'accorder un visa à Karel De Gauche, commissaire européen au développement et ancien ministre belge des Affaires étrangères. La raison évoquée est que cette personnalité politique belge avait tenu des propos discourtois à l'endroit des dirigeants congolais qui ont estimé qu'il n'avait pas de leçon à recevoir de Karel De Gauche. Forme des as pour sa part, pense que cette décision du gouvernement congolais risque de compromettre l'aide financière que l'Union européenne s'apprête à accorder à la RDC. Sur un autre registre, Forum des As revient sur la retombée des dernières mises en place dans les régies financières où il y a eu des cadres révoqués, d'autres mises à la retraite et d'autres encore nommés. Ce journal estime que si ce toilettage était fait dans les règles de l'art, on devrait pas seulement se limiter au ministre État, mais plutôt remonter jusqu'à frapper les gros poissons. La tempête de Covid de son côté qualifie cette situation de séisme dans les régies financières due au souci de Joseph Kabila de débarrasser l'administration financière de la gangrène de la corruption. Terminons cette revue de la presse par le journal L'Avenir qui assume que le PPRD reste fidèle aux alliances politiques conclues, estimant que les chauves-souris politiques qui basent leur action sur la déloyauté ne resteront pas impunis. Pour le confrère, ceux qui se sentent à l'étroit à l'AMP, au lieu de faire des déclarations, ont le choix de partir, car les portes sont largement ouvertes.
Javier Moukengue, directeur général du journal La Cloche, c'est un tri hebdomadaire paraissant ici à Kinshasa. Que dites-vous par rapport au travail abattu par la presse chinoise pendant cette semaine?
J'apprécie à juste valeur tous mes confrères, surtout les quotidiens qui sont à la page de l'actualité. Toutes les fois qu'il y a une certaine actualité qui se bat, ils sont présents et la latte dans la rue, sur la place publique. C'est vraiment très bon, c'est un travail vraiment qui demande d'être encouragé et d'être apprécié. Personnellement, je voulais justifier, vous avez dit un journal paraissant une certaine, mais je suis plus principalement un journal destiné aux Kassaïens. Je dessers les deux provinces du Kassaï. Mais si je suis à Kinshasa, c'est parce que nous n'avons pas du courant énergétique chez nous. Et nous sommes venus ici. Si nous étions dans des pays comme chez Karel De Gauche, je pouvais rester chez moi au Nice, c'est ce qui reste à Paris, les autres n'importe où, mais faire le même travail. Mais comme nous n'avons pas du courant chez nous, je suis là, mais je suis principalement journaliste Kassaï. Oui, je représente comme éditeur.
Et vous arrivez à bien distribuer votre journal dans les deux Kassai?
Si, très bien. Parfois, au Kassai, même dans les régions les plus reculées, même à Moutchim, à Kamouni, à Moyeditou, à Ngandagite, partout, le journal est connu et il est lu, mais j'espère aussi en grande partie qu'il y a ça.
Merci beaucoup, Théodore Kadingou. Vous êtes journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC Kananga au Kassai occidental. Et quelle est l'actualité qui a dominé au Kassai occidental cette semaine?
Bien, merci beaucoup. Je veux saluer tous les confrères qui sont sur place, notamment Jean-Pierre Montpellier, que je connais personnellement. Je lui présente mes voeux les meilleurs pour cette année nouvelle.
Merci.
J'espère que son journal prendra encore de l'envol, comme d'habitude. C'est un journal qui, il vous l'a dit, et il a pas cher raison, c'est un journal qui nous apprécions ici. Je ne veux pas du tout faire sa publicité. Eh bien, pour la grande actualité, ici en province, il faut souligner la remise officielle hier jeudi des quatre tracteurs agricoles et leurs accessoires à Monseigneur Marcel Madila, qui est l'archevêque métropolitain de Kananga. Eh bien, c'est une cérémonie qui a eu lieu sur l'esplanade du bâtiment administratif ici à Kananga, c'est en présence d'une foule nombreuse qui a apprécié d'ailleurs à juste titre ce don du gouvernement central qui entre d'ailleurs dans le cadre de la mécanisation de l'agriculture en vue de mener la lutte contre la pauvreté et la faim, qui est d'ailleurs, vous savez bien, l'un des objectifs du millénaire, mais surtout c'est la concrétisation de l'un des cinq chantiers de la République, fondé par Joseph Kabila Kabangé. Voilà.
Merci, nous passons à notre premier thème de ce soir. Arrivé cet avant-midi à Kinshasa de Bernard Kouchner, ministre français des Affaires étrangères. Bernard Kouchner vient du Rwanda où il a été reçu par le président Paul Kagame. Bernard Kouchner compte aborder plusieurs questions bilatérales et aussi les questions de sécurité pour les populations civiles de l'Est du Congo. Il est au micro de Basile Bakombane.
Je vais dire géopolitiquement, le plus important qui se soit opéré, c'est le rapprochement, en tout cas l'entente et le dialogue entre le président du Rwanda et le président de la République démocratique du Congo. Est-ce que cela a porté ses fruits politiquement? Sûrement. Est-ce que sur le terrain, pour les hommes et les femmes qui sont à l'est de votre pays, les choses se sont arrangées? Pas assez. Alors, ce sera certainement un des sujets de discussion avec le président Kabila. Je sais sa position à propos de la MONUC, je sais sa position à propos de la présence des forces internationales, et je voudrais connaître qu'est-ce qu'on peut faire pour que la population au sud et au nord Kivu puisse, après ces années d'opérations humanitaires et de politique de maintien de la paix, est-ce que la situation s'améliore et que peut faire la France et que peut faire l'Europe? Voilà une des questions, et puis les questions de coopération très importantes, et puis les questions politiques régionales, et puis la question de la forêt après la conférence de Copenhague. Il y a beaucoup de sujets.
Jean-Pierre Mokenye, qu'est-ce que la RDC peut attendre de cette visite de Bernard Kouchner?
D'abord, je remercie notre pays, les gens de notre pays, parce qu'ils sont très hospitaliers, ils acceptent les balais diplomatiques. Vous savez que lorsqu'il y a une autorité étrangère qui arrive dans notre pays, qu'il soit un homme d'État, un homme politique, un opérateur économique, c'est très important pour nous parce qu'il vient pour échanger l'expérience de son pays avec le nôtre. Je sais. M. Bernard vient de le dire, il n'a pas encore rencontré les autorités du pays. Il est arrivé. Nous attendons qu'il la rencontre et sur divers sujets qu'il a arrêtés, que nous attendions, et aussi vont nous répondre quoi. Nous savons que dans la plupart des cas, il discute à huis clos, mais la presse est toujours présente pour rafler certaines idées, certaines déclarations qui peuvent amener à la population à connaître les discussions entre les autorités de notre pays et les diplomates qui viennent. De toute façon, nous l'accueillons, nous remercions de sa présence ici chez nous et nous attendons qu'il fasse ces déclarations d'une manière publique.
Pardon, Kadingou, vous, comment vous analysez la visite de Bernard Kouchner au Congo?
Oui, merci. Il est connu que les relations entre la République démocratique du Congo et la France ont toujours été au fixe, hein, et cela depuis des lustres. Comme preuve, le président Nicolas Sarkozy a été à Kinshasa l'année dernière et s'est même exprimé devant les deux chambres de notre Parlement, réunis en congrès. On se souvient encore des applaudissements nourris qui coupaient à chaque bout de phrase les discours du président français. Et bien Bernard Kouchner, puisqu'on parle de lui, ce patron du Quai d'Orsay, qui a entamé une si longue tournée en Afrique, est un vieil animal politique qui n'a pas l'habitude de parler pour ne rien dire. Rappelez-vous la situation de la Guinée, il avait lâché une phrase une phrase qui a fait jaser les uns, mais accrocher l'attention des autres. Lorsqu'il avait déclaré que David Camara ferait mieux de rester dans son lit d'hôpital au Maroc plutôt que de rentrer dans son pays, ce qui déclencherait une guerre civile. Il y en avait qui étaient scandalisés en entendant Kouchner. Mais aujourd'hui, la tournure que prennent les événements en Guinée prouve à suffisance que ce monsieur ne crache pas du chewing-gum à tout vent. Il sait ce qu'il dit. Et pour ce qui est de sa visite dans notre pays depuis ce matin, Bernard Kouchner, en suivant les informations tout à l'heure sur votre chaîne Radio Capi, vient exprimer de vive voix la volonté des autorités françaises à réchauffer les relations bilatérales entre nos deux pays. La situation à l'est de notre pays, ce que la France et l'Union européenne peuvent faire en faveur de la RD Congo après la prorogation du mandat de la Monique jusqu'en mai 2010, la question de la forêt après la conférence de Copenhague. Nous avons suivi qu'il a salué le rapprochement mieux l'entente et le dialogue et le rétablissement des relations diplomatiques entre Kigali et Kinshasa, même si les choses sur le terrain ne sont pas encore tout à fait au beau fixe, eh bien, nous attendons savoir ce qui sera décidé après les entretiens avec le Premier ministre. Nous avons suivi Basile Bakoumbane tout de suite. Le président de la République également devra recevoir Bernard Kouchner. Sinon, à ce niveau de débat, nous ne pourrons que saluer l'état des relations entre nos deux États et comme on peut le souhaiter, pourvu que ça dure.
Et à votre avis, cette visite ne serait pas une occasion de concrétiser les partenariats signés entre la France et la RDC lors de la dernière visite du président Sarkozy au Congo?
Vous savez, nous avons à l'heure actuelle la mise en œuvre des cinq chantiers de la République. Nous savons aussi que notre pays est buté à beaucoup de problèmes qui nécessitent une solution par le partenariat. Notamment, je peux parler, entre autres, la mise sur pied d'une armée qu'il faut rebâtir, réorganiser. J'espère que dans les échanges, parmi tant d'autres points, ils évoqueront cela pour un appui de Paris dans la formation des nouveaux soldats et bien d'autres domaines de la coopération.
Et Jean-Pierre Moukengue, quel peut être l'apport de la France par rapport à la prorogation de la MONUC, par rapport aux enjeux qui représentent les bassins du Congo, par rapport à la formation des FRDC?
Merci. Je pense que, comme mon confrère vient de le dire, les relations entre notre pays et la France depuis toujours ont été bonnes. L'arrivée de Kouchner ici est un signe fort pour la République démocratique du Congo pour renforcer les relations dans tous nos secteurs, notamment la restauration et la formation d'une nouvelle armée forte et unique, républicaine, notamment parler du bassin du Congo, vous voulez dire, parce que ce sont des résolutions qui n'ont pas été du tout traitées lors de la conférence de Copenhague. Vous voyez, au retour de notre ministre Ndongo qui nous a représenté, les résultats n'ont pas été du tout satisfaisants. Donc, s'il y a un diplomate du genre de Bernard qui vient ici pour en parler avec les autorités du Congo, c'est-à-dire qu'il voudra renforcer et encourager. Et surtout, je pourrais venir en arrière pour dire que nos relations avec le Rwanda aujourd'hui, moi je dirais qu'elles sont très bonnes, très 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 bonnes, parce que les présidents se voient de temps à autre, nous avons échangé des ambassadeurs et il y a des relations qui semblent même être, je dirais, appréciables sur la démarche diplomatique. Alors, je sais qu'avec, comme il a déjà parlé avec le président rwandais Paul Kagame et qu'il vient rencontrer notre propre président et les autorités du pays, il y aura quand même un apport favorable pour nous.
Diplomatie toujours, nouvelle brouille entre Kinshasa et la Commission européenne. Karel De Goetz, le commissaire européen, déclaré indésirable en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort d'une lettre du ministre des Affaires étrangères de la RDC adressée à la Commission européenne le 2 janvier dernier et citée dans un article du journal La Libre Belgique. Le gouvernement congolais proteste contre les propos qu'il qualifie de malveillants tenus par Karel De Goetz le 16 décembre dernier au Parlement européen. Réaction de Karel De Goetz après la décision de la RDC de ne pas lui accorder des visas, les commissaires européens estiment que la réaction congolaise est allée trop loin et qu'elle n'était pas normale. Karel De Goetz, qui s'exprimait sur la radio belge VRT1, citée par l'agence BEGA, affirme que son analyse était objective et qu'elle est ressentie comme telle au sein du Parlement européen. Il précise être intervenu au nom de la Commission européenne et assure que son intervention avait été concertée avec Catherine Ashton, haute représentante pour la politique étrangère de l'Union européenne. Les gauches ne remettent toutefois pas en question la récente série des mesures européennes pour la République démocratique du Congo, démontant des prêts de 280 millions d'euros, mettant en avant l'importance primordiale de l'aide à la population civile en République démocratique du Congo. Il refuse de faire de cette polémique une affaire personnelle. Jean-Pierre Moukengue, avez-vous été surpris par la décision de la République démocratique du Congo?
Pas seulement surpris, mais j'ai été émotionné. Émotionné parce que notre ministre des Affaires étrangères actuel, c'est un homme qui ne blase pas, qui ne badine pas, et qui a un temps d'une autorité considérable. Vous savez, qu'avec les fils, les réactions ne sont pas les premières, c'est connu de tous les Congolais. C'est depuis qu'il a été ministre des Affaires étrangères qu'il a commencé à nous minimiser, à nous insulter, à nous donner des leçons. Et aujourd'hui, en tant que commissaire européen, il ne peut pas changer le fusil d'épaule. Il continue toujours à parler sur le même ton, de la même manière. Donc, il ne nous aime pas. Pour quelqu'un qui ne nous aime pas, on ne peut pas dire que c'est une affaire de la France, une affaire de l'Union européenne. Non, ça c'est une affaire personnelle, des carrés de fils qui peuvent avoir peut-être des comptes à rendre aux Congolais ou des Congolais qui ont des comptes à lui rendre sans qu'ils le disent ouvertement.
Docteur Kadimou, comment comprendre cette attitude des Karel de Gauche vis-à-vis de la RDC?
Eh bien, merci. Les latinistes disent ceci, trahit sua tente omitas, je veux bien traduire pour nos auditeurs, chacun a son penchant qui l'entraîne. Et celui des Karel de Gauche est de provoquer les autorités congolaises. Eh bien, comprenez. Monsieur Karel de Gucht, commissaire européen à la coopération et à l'action humanitaire, dont le propos du 16 décembre dernier devant le Parlement européen sont jugés de malveillants par Kinshasa, eh bien, nous pensons que sa présence justement au Parlement européen n'a rien changé à la personne dans son attitude à l'endroit de la RDC. Or, il doit savoir que la République démocratique du Congo est un État indépendant. Et on se souvient encore du refroidissement des relations entre Bruxelles et Kinshasa en 2008, si mes souvenirs sont bons, et des efforts des uns et des autres pour récolter les morceaux avec du patex diplomatique. Eh bien, je pense que même si M. Karel, qui veut bien prouver n'avoir pas sa langue dans sa poche, a son idée sur la conduite de la politique en République démocratique du Congo, eh bien, chers confrères, il y a des choses et des discours qui peuvent se dire de manière à ne pas blesser l'interlocuteur. On n'est pas toujours arrivé à tout faire en matière politique. Il y a des crises partout, en Belgique même, et dans les pays dits les plus démocratiques du monde. Et ce sont les hommes qui cherchent à y porter des solutions. Et si lui, notre ami Karel de Gucht, est conscient, est convaincu, et chaque fois qu'il a ouvert la bouche au sujet du Congo, son discours alimente souvent les débats de café. Et quelle est la véritable raison qui le pousse à ce jeu pour les moins délicats? Et bien, d'autre part, est-ce que cette crise de position de la RDC, voulais-je dire, va créer une crise entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo? Attendons voir la suite des événements, tant qu'on sait que ces derniers devaient conduire une mission humanitaire de l'ordre de, Jean-Pierre l'a dit, de 280 millions d'euros en faveur de la population congolaise. Eh bien, il a dit aussi dans sa déclaration qu'il ne voulait pas en faire une affaire personnelle. Il est tellement rusé, Karel de Gucht. Il est rusé comme un renard en déclarant « Je ne pense pas une affaire personnelle », c'est-à-dire « Je voudrais maintenant que l'Union européenne en fasse son affaire contre la République démocratique du Congo. » Vous comprenez ça? On n'est pas dupes. Voilà ma position.
Oui, Jean-Pierre Moukengue, vous, en tant qu'analyste, comment pouvez-vous analyser ces comportements des Karel de Gucht vis-à-vis des autorités congolaises?
Je le disais tout à l'heure que c'était un homme mal intentionné, tout simplement. Je me suis demandé, pour la première fois, s'il n'a pas des comptes à rendre aux Congolais ou s'il n'a pas des Congolais qui ont des comptes à lui rendre. Ce sont simplement. Parce que ces prises de position, ces déclarations de scontoise vis-à-vis de notre pays tout entier et des autorités qui nous dirigent font qu'il y a quelque chose de cachette dans son cœur qu'il faut normalement chercher à déballer. Et si le débat le fait, même si on le mettait aujourd'hui président du monde entier, nous aurons toujours des problèmes avec lui. Et nos autorités ne peuvent pas se laisser prendre par n'importe quelle déclaration, parce que mon confrère Kadingo vient de le dire. Nous sommes un pays souverain. Si jusqu'aujourd'hui, nous allons toujours nous laisser prendre par des mots, par des gens, tant est-ce que nous montrerons à la face du monde que nous sommes un pays indépendant et souverain. C'est un grand endage aujourd'hui.
Oui, Théodore Kadingo, vous avez vous êtes posé la question de savoir si ce propos pourrait avoir un impact sur les relations entre la RDC et l'Union européenne. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter une telle éventualité, que ces propos ne puissent pas poser des problèmes dans les relations entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo?
Eh non, en tout cas même au Parlement européen, ils ne sont pas dupes, eux-mêmes ils connaissent la règle de Grèce. Déjà depuis si longtemps, quand ils étaient au gouvernement belge, ils savent très bien qu'il a toujours eu des propos, j'allais dire déplacés, des propos malveillants à l'endroit de la République démocratique du Congo. Et ça, ils le savent. Et c'est pas aujourd'hui qu'il va, il va chercher à les mettre dans un panier pour entrer dans une sorte de querelle, dans une sorte de bisbille entre Kinshasa et l'UE. Non, je suis que eux-mêmes, ils comprennent que tout ce que nous avons tapé du poing sur la table, les autorités ne peuvent pas se laisser marcher comme ça sur le doigt. C'est pas tout à fait correct, c'est ça. Et ils doivent corriger, c'est vrai, parce que Karl Degas, il est aujourd'hui personnel en Ukraine. C'est en état de légitime défense. Nous devons défendre. Nous sommes un État souverain, un État indépendant et un État qui a à sa tête des gens et des personnalités qui ont choisi, qui ont pris l'assemblée, qui se sont dit nous devons diriger ce pays. Nous sortons d'une longue guerre, une guerre qui nous a été imposée de manière injuste. Aujourd'hui, voilà que même lorsque Kouchner est en train de passer partie là-bas, c'est dans la recherche d'une certaine solution dans la région des Grands Lacs. Et qu'est-ce qu'il cherche, M. Tarek Begué, qui le dise à autre fois, voilà.
Merci Tarek, cette question, votre question, que nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Publication lundi dernier d'une série d'ordonnances portant révocation, mise à la retraite et promotion des agents de l'administration publique et des régies financières. Une centaine de cadres et agents de la fonction publique révoqués, plus de 2500 mis en retraite et 1500 promis. C'est ce qui ressort d'une série d'ordonnances signées le week-end dernier par le chef de l'État. Ces mesures concernent les ministères des Finances, du Budget et des régies financières. Pour Michel Botoro, ministre de la fonction publique, cette série de mesures s'inscrit dans le cadre de l'assainissement de l'administration publique amorcé par les chefs de l'État depuis le mois de juillet 2009. Mais seulement, plusieurs candidats à la retraite redoutent que leurs indemnités de sortie ne soient payées à temps. Le ministre de la Fonction publique rassure, tout ira mieux. On écoute Michel Botoro, ministre de la Fonction publique, au micro de Basile Bakoumbane.
Dans le programme du gouvernement, le volet assainissement est un volet le plus important, ce qui fait que les ordonnances que les chefs venaient de signer aujourd'hui ne sont que la suite des ordonnances que les chefs de l'État avaient signées sur proposition du ministre de la Fonction publique et gestion au mois de juillet de l'an dernier. Donc, l'assainissement continue et cet assainissement a pour but de pouvoir remettre totalement de l'ordre dans le secteur public. Aujourd'hui, dans notre pays, le secteur public est un secteur qui était vraiment atteint par la pauvreté au point que si on ne fait pas trop attention, nous risquons d'amener les pays vers la dérive. C'est ainsi que nous sommes obligés d'assainir. Assainir ici veut que nous puissions voir dans les paquets des agents de l'État ceux qui ont déjà l'âge éligible à la retraite pour qu'ils partent et ceux qui méritent la promotion parce qu'en fait, après avoir passé plusieurs années sans promotion, certains les méritent et enfin, les gens qui se sont méconduits au cours de leur carrière, après avoir été entendus sur base de certaines actions disciplinaires par les conseils de discipline qui est à la fonction publique, seront obligés d'être frappés de mesures de révocation, c'était ce qui s'est passé normalement.
Oui, Jean-Pierre Moukengue, vous êtes responsable du journal La Cloche, et vous avez annoncé la parution de ce journal lundi prochain. Et comment allez-vous analyser cette actualité sur la publication de cette série d'ordonnances présidentielles?
Merci. D'une manière générale, vous venez de suivre ce qu'a déclaré le ministre de la Fonction publique. Personnellement, j'encourage d'abord notre jeune chef de l'État pour son dynamisme, parce que nous sommes restés longtemps dans la léthargie administrative. J'ai à côté de moi, je ne vais pas citer ici quelqu'un, qui a plus de 80 ans, mais qui continue toujours à travailler, fatigué. Il ne savait même pas se mettre debout, devenu invalide, mais il continue à travailler. Il me demandait un jour, est-ce que moi j'ai la retraite? Est-ce que dans ce pays, il n'y en a pas encore de retraite? Est-ce que depuis que mon bouton envoyé, les gens ont retraite, il y a de cela une trentaine d'années, nous, qu'est-ce qu'on faisons? Et il y en a beaucoup comme ça. Si aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de cadres universitaires qui ont terminé, il y a beaucoup de jeunes gens qui sont en train de s'engager par la sans travail, alors qu'il y a des cadres, des six, malgré leur ancienneté dans les services, qui restent à la fonction publique. Ce n'est pas normal. Ces jeunes gens qui sortent des institutions supérieures et universitaires de notre pays, bien formés, même qui viennent de l'étranger, doivent trouver de l'emploi. Et pour trouver de l'emploi, on doit nettoyer. C'est la Constitution, c'est sous les statuts des carrières des agents de l'administration publique qui nous dit. Quand vous atteignez 60 ans, vous devez quand même aller vous reposer. Et s'il y a des gens qu'on a pu révoquer, moi je crois que c'est une bonne chose. Parce que depuis que la tolérance zéro a commencé à s'appliquer, il y a beaucoup de gens qui commencent maintenant à respecter leur travail, ni la manière de travailler, ni de travailler. Je vous dirai ici que mon confrère, j'ai approché un juge au tribunal d'Assosa. Il y a un problème avec un cousin, je lui dis, mon frère, si vous prendrez une bière, il me dit, non, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. C'est parce qu'on avait frappé, il n'y a pas longtemps, les magistrats véreux. Et si aujourd'hui, à la fonction publique, surtout dans les régimes financières, on arrive à révoquer certaines personnes, les gens diront, moi, je peux faire cela. Vous voyez, celui qui avait fait son dossier, nous croyons que c'était oublié, aujourd'hui, il est parti. Il doit travailler correctement. Et c'est ce que le pays a besoin. Donc, le président de la République, en son travail, qu'il faut féliciter, qu'il faut encourager, et qu'il faut que ça se fasse dans tout le secteur, surtout dans l'enseignement primaire et secondaire, où vous trouverez quelqu'un à plus de 90 ans, qui est même devenu avec et qui continue à donner cours.
Théodore Kalingou, partagez-vous ce point de vue?
Oui, tout à fait, exactement, je partage le point de vue avec Jean-Pierre. Vous savez, parmi les meilleures pratiques de la bonne gouvernance, il y a le principe du renouvellement et du rajeunissement des cadres, qui doivent se faire dans la relève, quoi. C'est en vue de jeter les jours, la routine et le manque d'initiative, qui finissent toujours par élire domicile. Et puis, le fait que des commissions d'audit effectuées par le parlementaire ont interrogé le président de la République et on a mis à nu certains abus ou même certaines insuffisances qui appellent à ce renouvellement des compétences. Mais par contre, là où je voudrais quand même ajouter quelque chose, ces compatriotes qui ont tout donné pour la République méritent une sortie honorable en tenant compte de la République, mais là bien sûr. Ici, je fais chapeau bas à nos retraités, ceux-là qui ont travaillé le plus longtemps possible et qui restent encore. Eh bien, un retraité n'est pas à traiter de la même manière qu'un détourneur. Voilà là où il faut qu'il y ait une certaine démarcation. Et dans ce cas, l'un doit être honoré pour une sortie honorable, si vous me permettez, et l'autre, non pas seulement révoqué, mais il doit être traduit devant la justice, même si je sens déjà de la présomption d'innocence. Quant aux autres, c'est-à-dire la troisième classe, eh bien, Jean-Pierre l'a dit, il y a des cadres universitaires, il y a cette jeunesse qui fulmine encore de rigueur. Mais où est-ce qu'ils vont être cadrés lorsqu'on a des grands-pères qui restent encore là, 80 ans, 90 ans, en train de donner cours, et qui ne savent plus bien parler? Qui vont-ils former? Ils vont former, en fait, inédite. Mais si déjà tout au départ, c'est un enseignant qui ne sait ni voir, ni écrire au tableau, ni lire un ordre dans ses notes, finalement, qu'est-ce qu'il va former? Qui va-t-il former? Seront-ils appelés des élites de demain? Eh bien, je suis sûr que la mesure prise par le président de la République est bonne, mais il faut savoir comment remercier, mieux remercier ceux qui le méritent pour avoir bien travaillé. Mais tous ceux-là qui n'ont pas bien travaillé, qui ont trempé leurs doigts dans la caisse de l'État, eh bien, la justice est là, ils savent que la justice est là, et la justice doit faire son travail pour que cela serve de leçon. Le président de la République l'a dit lui-même, fini la récréation.
Oui, Théodore Kadingou, parce que vous évoquez les agents qui ont été frappés par ces ordonnances qui ont été révoquées, l'intersyndicale des agents des régies financières dénonce un certain nombre d'irrégularités, notamment elle pense que les agents des régies financières ne devaient pas être entendus par la commission de discipline de la fonction publique, étant donné que ces agents ne sont pas régis par les statuts des agents de l'État. Comment appréciez-vous cette position de l'intersyndicale des agents des régies financières?
Ah non, ils ne devraient pas se comporter comme si j'étais en dehors de la chaîne. Non, se comporter comme si j'étais au-dessus de la mêlée. Non, la justice est une et unique. Cette justice ne doit pas s'appliquer. On n'a pas à appeler une justice à deux vitesses. Non, ils ne cherchent pas de. Ils n'ont pas à chercher des raisons à gauche à droite. Ils ont été nommés dans le sac, eh bien, ils doivent répondre devant la justice. Notre justice est une et unique. Il n'y a pas de courant de justice dans notre pays, à moins qu'on soit en dehors de la Constitution, notre Bible nationale.
Jean-Pierre Mokenge, certains agents disent aussi qu'ils ont été accusés injustement parce qu'il n'y a pas eu d'éléments de preuve qui ont attesté qu'ils ont trempé dans la malversation. Comment jugez-vous cela?
Bon, moi, je pense que, Guy, à part Dieu qui a créé ce monde, il n'y a aucune personne qui est parfaite, qui peut rendre un service très parfait. Non. Les perfections, peut-être, ils aient dans certains provocatifs d'une manière ou d'une autre. Mais c'est que je sais que ces gens qui se réclament, qui ne veulent pas être entendus par la fonction publique, se trompent, parce qu'ils sont des fonctionnaires. Même s'ils travaillent sous une convention collective, parce qu'ils sont des régies financières, mais ils dépendent des ministères, soit du ministère du Budget, soit du ministère des Finances. Et tout ce monde-là qui dépend de ces ministères devient automatiquement des fonctionnaires de l'État. En tant que fonction de l'État, c'est le ministre de la fonction publique qui gère l'administration publique, qui a droit d'attendre, qui a droit de faire vos propositions. Donc, ils sont en dehors de ce qu'ils disent.
Oui, parce qu'il y a cette possibilité d'introduire des recours pour les personnes qui se sentent lésées. Quelle chance accordez-vous à ces recours? Pensez-vous que ces recours vont aboutir?
À la fonction publique, il y a une commission spéciale, deux ou trois, je sais, selon les secteurs, qui sont là pour étudier les recours. Si votre recours est fondé, on vous répond. Nous sommes là pour ça, parce que vous avez travaillé avec moi. Nous avons commis une erreur. Vous venez, vous demandez votre recours. Et si elle est fondée, on va vous réhabiliter dans vos droits. Mais si elle n'est pas fondée d'une manière générale, on va partir. Mais pour la plupart des cas de ces gens-là, ce sont les gens qui ne veulent pas partir, qui ne veulent pas quitter, qui avaient déjà des dettes quelque part, qui avaient déjà des conventions personnelles avec certains hommes d'affaires, c'est là qui savent si je suis parti, c'est sûr, qui veulent toujours se pérenniser dans ces fonctions-là.
Nous passons à notre troisième thème de ce soir. Polémique autour de la création des nouveaux courants au sein de l'AMP, l'Alliance de la Majorité Présidentielle. Pendant ce moment, du côté de l'opposition, le MLC annonce la mise sur pied d'une plateforme en prévision des élections de 2011. Mise sur pied d'une plateforme en vue de préparer les échéances électorales de 2011. Le secrétaire général du mouvement de libération du Congo, MLC en sigle, l'a annoncé ce lundi au cours d'une cérémonie d'échange des vœux au Grand Hôtel de Kinshasa. L'objectif de cette plateforme va, selon François Mwamba, permettre de rassembler les forces politiques afin d'arrêter un programme qui sera office de projet de société. Ce projet permettra d'élire les candidats issus de cette plateforme, comme nous l'explique François Mwamba au micro de Blaise Makassi.
Le MLC qui a l'avantage d'avoir déjà entamé une réflexion approfondie et multisectorielle sur l'ensemble de ces éléments, nous propose d'assurer la coordination de cette démarche innovante durant les 5 mois qui viennent, à tout à coup de juin de cette année. Une grande rencontre patriotique soit organisée et nous réunisse tous à un lieu à déterminer ensemble pour valider nos choix et nous donner une nouvelle feuille de route vers 2011.
Et à propos de la polémique autour de la création des nouveaux courants au sein de l'AMP, les groupes parlementaires Force de Renouveau et désolidarise des initiateurs de ces nouveaux courants. Dans une déclaration faite à la presse, le président de ces groupes parlementaires désapprouve la démarche entreprise par les deux députés créateurs de ces courants. Honorable Bernard Mpéti invite ces députés à revenir sur la ligne de conduite de leur parti et leur groupe. Théodore Kadingou, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC et Kananga au Kasaï occidental. Nous constatons des manœuvres aussi bien du côté de la majorité que de l'opposition. Est-ce un repositionnement par rapport à 2011?
Oui, ça peut être un repositionnement en prévision de 2011, mais la mise en place d'une plateforme par le NSE est une initiative à saluer, car on le sait bien, depuis l'arrestation de Jean-Pierre Bemba, nous avons la même perception que le NSE vogue, et c'est tout à fait vrai, c'est comme un bateau sans capitaine. Mais la détermination des matelots, donc dans le genre François Mamba, est à prendre au sérieux, dans ce sens que s'ils sont prêts à se serrer les coudes, eh bien la bataille contre vent et marée sera vaincue et à leur compte. Seulement il y a une chose. Cette chose-là, c'est quoi? C'est ce qui va susciter des débats houleux, c'est cette opposition qui choisisse quelqu'un à l'unisson, donc un leader. Mais un regard circulaire enseigne que jusqu'à présent, hormis le Charmaine, comme on l'appelle, il n'y a pas encore une autre figure prédestinée à mériter l'unanimité. C'est là justement que le pouvoir s'est joué. Il faudra beaucoup d'esprit fortement blindé de la part des tenants de l'opposition pour s'accorder sur le nom d'un leader consensuel. Sinon, on est parti pour la gloire, c'est-à-dire, s'il ne traite pas ce point-là avec parcimonie, nous allons vivre en 2011. Comme c'est le cas partout en Afrique ces derniers temps, des élections où l'opposition s'engage en ordre dispersé, et le résultat, on le connaît déjà, protestations, il y a une tricherie, on fait beaucoup de bruit pour rien. Et par contre, s'ils parviennent à se mettre d'accord autour d'un candidat, ce sera alors une avancée considérable, et nous vivrons des échéances en suspense, j'allais dire, des plus fortes.
Jean-Pierre Montpellier, comment appréciez-vous l'initiative du MSC?
Pour le MSC, vous savez, si vous avez lu mon journal du 21 novembre dernier, je disais à la une que l'opposition congolaise est orpheline du leadership. Et tiens, c'est ce qu'il dit. Étant retenu à Bruxelles pour des raisons de santé, Jean-Pierre étant en détention à la CEPI, donc il n'y avait pas un leader. Et si aujourd'hui, je ne sais pas comment, sans m'embasser les pays, parce que c'était un leader lui aussi, et c'était un député élu, c'était général du parti, un grand parti de l'opposition. Il est en connivence avec les deux leaders, que moi je ne sais pas rencontrer, et qui lui ont donné leur avis favorable.
Là, vous faites allusion à qui?
Oui, ce sont les deux leaders dont on parlait. Alors, s'ils sont contactés par lui, et qu'ils lui disent que nous voudrions faire quelque chose de commun, comme une plateforme, c'est une bonne chose pour l'opposition politique congolaise. Mais s'il l'a dit pour dire, parce que nous avons des politiciens, l'opposition pour la plupart des cas, le déclare et c'est qu'il déclare sans contester les autres. Vous verrez demain un autre opposant passer devant le micro à la radio Capi, peut-être devant les écrans télévisés pour dire non, c'est que Mamba a dit dans le cas de lui. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de contestation. Nous pensons que l'opposition se prépare et nous souhaitons bonne chance à cette plateforme qui pourra naître.
Et par rapport à cette polémique autour de la création de nouveaux courants au sein de l'ANP, et quel est votre point de vue?
Merci beaucoup. Je vous disais tout à l'heure que à l'AMPE, j'ai suivi le secrétaire exécutif de l'AMPE, Adjuin, M. Koyakilo. Dans ses premières réactions, il a dit que nous sommes en démocratie, et qu'en démocratie, chacun peut opter pour ce qu'il aime. Donc, c'est un courant rénovateur, a-t-on dit. Ils ne sont pas désautorisés de l'AMPE, mais sinon, parce que ces gens-là ont été pour la plupart d'entre eux, ont été de l'ARC. Le président de l'ARC étant au gouvernement de l'AMPE, a trouvé qu'il fallait les chasser, il fallait les auto-exclure. J'ai les deux décisions. D'abord, la déclaration du bureau directeur, signée par lui-même Olivier Kamitatou, et la déclaration du groupe parlementaire des forces de renouveau, signée par M. Petit, l'honorable Petit. Alors, ils ont trouvé que ces gens ont agi comme ils voulaient, sans consulter leurs bases, sans consulter leurs partis, sans consulter leurs formations politiques, alors qu'ils voulaient agir en dehors des lois américaines, mais sinon la création d'un autre courant, et renovateur soit-il, c'est une bonne chose, parce qu'on a la démocratie.
Théodore Kadingou.
Oui, j'ai suivi, comme tout le monde d'ailleurs, l'édition Dialogue Afro-Congolais d'hier soir, j'ai dit, en tout cas, pour être correct, ces désengagements d'un groupe de députés de l'ANP n'inspirent rien de réconfortant. Selon moi, c'est un comportement qui heurte les consciences.
Pourquoi ?
Dans ce sens que c'est un comportement qui heurte les consciences. Mmh. Dans ce sens qu'aujourd'hui, lorsqu'on va venir les échéances de 2011, la meilleure façon d'éviter les dégâts, c'est de se mettre autour d'une table pour avoir un finish, un même discours à tenir auprès des électeurs. C'est des électeurs qui leur ont donné le pouvoir 5 ans durant. Hein. Pendant les 3/4 de la législature, vous êtes dans l'ANP, vous y prenez de grandes décisions de la République, et tout d'un coup, comme sous le feu d'un bâton magique, vous décidez de tourner Kazakh. Je vois pas.
Et vous pensez que ce comportement est l'apanage des seuls politiques congolais?
Oui, mais c'est vrai. Mais qu'est-ce qui les aurait empêchés à ces députés-là de s'exprimer d'abord en famille, hein, pour laver le linge sale? C'est ce qui serait une attitude irrécommandable avant de se lancer sur la place publique à travers des diatribes, d'ailleurs mal perçues par la population. Un conseil à leur donner, si vous permettez qu'on fasse, hein. S'ils ont une fibre politique, ils ont tout intérêt à maintenir l'image de l'ANP et la défendre. Hein. Nous espérons qu'il s'agit d'une simple petite querelle de famille et sans plus. Mais d'autre part, il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Si déjà au sein de l'ANP, il y a des voix qui s'élèvent pour exprimer un ras-le-bol, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Hein? Au ténor, j'adresse aussi un conseil, tenter par tous les moyens de mettre fin à ces conflits internes. Cela vaut mieux. Vous savez, l'opposition n'attend pas mieux que cette levée de bouclier au sein de l'ANP pour s'offrir des arguments du poids en vue de tenter de conquérir le pouvoir. C'est cela le rôle de l'opposition, profiter des divergences, des vues au sein du pouvoir, pour contrecarrer. Voilà.
Jean-Pierre Mouquenier, cette polémique ne respecte-t-elle pas un certain malaise au sein de l'ANP?
La malaise vient parce que j'ai suivi l'honorable Évariste Bouchard, lors des échanges de vœux, les quatre, ils ont vu de rien. Évariste Bouchard a hésité. C'est le secrétaire général du PPRD. Le PPRD qui est le premier grand parti de l'ANP. Pouvoir, il a invité les uns et les autres à revenir à leur raison, c'est-à-dire il voudra qu'on recrée l'unité. Je disais tout à l'heure que l'écarrement ne manque pas dans toutes les familles, mais lorsque les enfants sont écarés, on doit les inviter à revenir à leur raison pour respecter les ordres des parents. Le parent actuellement, c'est l'ANP. C'est les députés, 3 ou 4, qui ont fait des déclarations. On n'a pas le droit de les tuer, on n'a pas le droit de les chasser, on n'a pas le droit de les emprisonner. Non, on doit les faire revenir à la raison de manière à ce qu'on puisse se consolider pour permettre les enseignants ces prochaines, comme on a mis d'organiser.
Oui, Théodore Kadingou, vous êtes journaliste et analyste. Et comment prévoyez-vous la configuration du paysage politique congolais en 2011?
Oh, ça, c'est à moins d'être devin. Je suis sûr que les échéances de 2011 vont nous réserver toutes sortes de surprises et de grandes. Attendons voir. C'est pas devin, je ne vais pas faire les... Non, attendons voir. Mais soyons rassurés, il va se passer des choses. Et nous serons tous qualifiés. Parce que c'est l'avenir, hein. Déjà à partir d'aujourd'hui, vous vous rendez compte, hein, qu'on est en train de secouer les cocotiers, comme on dit, hein, de part et d'autre. C'est pas pour rien, ils ont déjà certaines visions, il y a déjà certains secrets entre eux qu'ils se disent, donc ils sentent déjà qu'il y a un feu sous la cendre quelque part. Mais de quel côté il y a le feu, de quel côté il y a la cendre, nous le saurons avec le temps. On est observateurs nous-mêmes.
Oui, Jean-Pierre Mouquenier, comment vous entrevoyez, vous, en tant que journaliste, les paysages politiques congolais en 2011?
C'est difficile, parce que nos élites actuelles n'ont pas répondu aux attentes de la population qui les ont élus, dans la plupart des cas. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui cette issue ce soir, au sein des lampes. Les gens comprennent qu'il faut que nous puissions rendre la carte citable à nos électeurs, faire un bilan, un compte précis. Les autres disent non. Dans l'entretemps, il y a même ceux que depuis qu'ils sont venus, ceux qui ça, ne sont pas rentrés ni à Issiro, ni à Dimbélé, ni à Ikassi, pour ne fût-ce que visiter une seule fois ce qu'ils ont élu. Et dans la plupart des cas aussi, ce sont les gens qui sont venus de la diaspora. Avec leur argent, qui ont corrompu la population, qui avec un Tichon, qui avec un Képi, qui avec un Piocetac, qui avec un Gisèle, on les a élus. Mais aujourd'hui, les gens ici, le pardon, moi, disent, ou après, c'est lourd pour quand même. C'est-à-dire qu'ils disent que nous, nous devons même élire les enseignants qui restent avec nous, qui nous enterrent, qui nous plairent, qui nous donnent des soins, qui élire quelqu'un qui vient d'ailleurs. Parce que si elle vient, ils ont des familles en Europe, en Afrique du Sud, aux États-Unis, partout. Alors, les choses vont changer.
Merci, c'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Jean-Noël Mokondo était à la technique, Alain Hirung à la réalisation, assisté de Samuel Kachak et de Kéline Couté, sous la supervision de Martin Sebou-Jangoué, devant ses micros, Guy Maté. Merci et meilleurs vœux pour l'année 2010. Thank you.